40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. C'est Nicolas Cohen, cofondateur d'Anchor Store, qui a choisi notre invité du jour. Et j'ai le plaisir de tendre mon micro à une sériale entrepreneur dans la tech, Arvia Smiti. Bonjour Arvia.
Bonjour.
Arvia, tu es la fondatrice de Rosalie, la fintech qui veut redonner du pouvoir d'achat aux salariés grâce à une solution encore largement méconnue en France, qui est l'acompte sur salaire. Je m'arrête là pour te laisser pitcher Rosalie.
Très bien. Oui, en fait, Rosalie, c'est le premier dispositif d'émancipation financière pour les collaborateurs en Europe. Ce qu'on essaye de faire avec ça, c'est vraiment donner, en tout cas, un bénéfice salarial aux entreprises pour leurs salariés, pour améliorer leur bien-être financier et leur santé financière, qui est une verticale très urgente, je trouve, et très indispensable, surtout dans le contexte actuel d'inflation et de crise économique, etc. Et comment on fait ça? On fait ça avec deux dispositifs très complémentaires. Un, avec le salaire à la demande. Donc, on a introduit pour la première fois en Europe un nouveau concept qui est comment rendre la rémunération flexible au lieu d'être basée sur 30 jours comme depuis des siècles.
Ouais.
Et donc, permettre aux gens d'accéder en fait à leur salaire gagné quand ils le souhaitent. Donc, le 3 du mois, je peux, en tant que salarié, accéder à l'équivalent de 3 jours de travail pour payer tout de suite mes courses ou mes urgences. Le 10 du mois, 10 jours de travail, etc. Et donc, on veut remplacer les découverts bancaires, les prêts à la consommation qui rendent les gens dans un cercle d'endettement et redistribuer ces peut-être 7 milliards d'agio payés chaque année par les Français dans les poches des collaborateurs pour améliorer leur pouvoir d'achat. Et on complète ça avec tout un dispositif complet d'éducation financière parce qu'on estime qu'il faut accompagner les gens vers une gestion saine de leur argent et utiliser la flexibilité de rémunération comme juste une manière de gérer mieux leur budget et les emmener ensuite vers un accompagnement par des assistantes sociales, des diplômés CESF pour justement les aider à sortir de leurs problématiques, en tout cas financières, simuler toutes les aides pour lesquelles ils peuvent être éligibles pour justement améliorer leur pouvoir d'achat, commencer même à mettre de côté, donc on incite même à l'épargne avec une expérience complètement différente, un peu comme le prélèvement à la source parce qu'on est basé toujours sur le salaire, etc. Donc on a un pléthore en fait de dispositifs et de fonctionnalités en utilisant le meilleur de la tech et le meilleur de l'humain pour justement améliorer cette santé financière qu'on trouve très 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 importante si on veut rendre les gens heureux demain et plus engagés dans leur travail.
Et donc concrètement, un salarié a accès à la plateforme Rosalie et fait sa demande. J'ai besoin de l'équivalent, comme tu disais tout à l'heure, 3 jours de salaire.
Tout à fait.
Et c'est vous qui avancez.
En fait, exactement. Donc en fait, c'est une application mobile sur iOS, Android ou même en web app. Il voit là-dessus le salarié à n'importe quel moment son salaire gagné en temps réel. Ça, c'est déjà une première révolution. Au lieu de voir juste un chiffre qu'à la fin du mois sur un
sur
bout de papier.
Sur une fiche de paie qu'on ne
comprend pas. Voilà, exactement. on peut le voir tous les jours en temps réel, mis à jour régulièrement, en prenant compte précis par rapport à leurs absences, à leurs gains, etc. Et il peut demander n'importe quelle somme tout de suite et la recevoir en moins de 2 secondes sur son compte bancaire pour pouvoir l'utiliser tout de suite, même à 2h du matin, de son propre canapé. Donc il n'y a plus le côté gêne à aller demander en fait, de l'argent à son employeur, ce qui s'appelle l'acompte sur salaire, qui est d'ailleurs une obligation légale en France et dans pas mal de pays européens, mais qui est encore gérée de manière manuelle, archaïque, traditionnelle, longue, très très gênante justement parce qu'il faut en fait une validation de l'employeur pour chaque demande une fois par mois, etc., qu'on rend complètement décomplexé, très accessible, instantané et surtout gratuite pour les gens. Et c'est nous qui avançons cet argent-là, c'est ça la différence, parce qu'on est une fintech, en plus d'être une HR tech, on a été d'ailleurs élu la fintech de l'année fin de l'année dernière, parce qu'on a créé un produit financier, en fait, totalement innovant aussi, pour permettre de ne pas toucher le BFR et la trésorerie des entreprises.
Parce que c'est
très important.
C'est souvent le frein, j'imagine, de pourquoi c'est méconnu.
Tout à fait.
Parce que si on dit on doit faire des fiches de paie tous les 3 jours.
Exactement. C'est déjà une problématique pour les entreprises de faire une paie à la fin du mois. S'ils doivent la faire plusieurs fois dans le mois, c'est juste compliqué, que ce soit en termes de complexité administrative ou en trésorerie. Et donc, on gère les deux. On enlève toute la complexité administrative en digitalisant le process de A à Z. Comme ça, il n'y a plus une seule intervention nécessaire de la part de l'employeur jusqu'à en fait, l'édition de la fiche de paye. Et en même temps, on avance, nous, tout l'argent pour ne pas toucher à leur trésorerie et leur masse salariale. Et comme ça, en fait, la boîte voit ça enfin comme un dispositif gagnant-gagnant qu'elle va encourager, qu'elle va même le crier partout et l'offrir à ses salariés plutôt que de le cacher aujourd'hui et ne pas communiquer dessus.
Puisque ça peut être un avantage concurrentiel pour elles, ces entreprises, pour aussi attirer des talents en disant on a cette possibilité-là à vous offrir.
Exactement, en fait. Vous mettez le doigt là-dessus, parce qu'en fait, au-delà de simplement venir enlever un process justement digitalisé, nous, on touche surtout les enjeux RH très importants aujourd'hui des entreprises, dont l'attractivité, la marque employeur, renforcer la politique sociale, baisser le turnover et l'absentéisme qui atteint, je ne sais pas, des records en fait cette année historique, je ne sais pas si vous le voyez, dans tous les pays et dans tous les secteurs. Sur l'attractivité, on a prouvé avec nos clients, parce qu'on a 250 aujourd'hui, qu'on a augmenté de plus de 20% l'attractivité en fait des entreprises très très rapidement. Et ça, c'est simple, vous allez sur Indeed, vous tapez Rosalie sur la barre de recherche, vous allez voir les centaines d'offres d'emploi qui citent Rosalie ou salaire à la demande avec Rosalie comme le premier argument sur la fiche d'emploi. Et en fait, ajouter cette simple phrase augmente de 20% le nombre de candidatures et de CV qualifiés en fait reçus par l'entreprise. Ce qui montre en fait qu'il y a une vraie en fait demande, que ce soit de la nouvelle génération des jeunes ou en fait les autres par rapport à ça, dans des secteurs en tension aujourd'hui. Moi, je parle, parce qu'il y a quelques années, on parlait toujours en fait, de cette problématique de recrutement, mais on parlait plutôt de recrutement de col blanc, donc de data scientist, d'un développeur, etc. Mais depuis maintenant le Covid, on entend plus de la très grande galère d'avoir un serveur, d'avoir un manutentionnaire, d'avoir un ouvrier. Donc c'est ceux-là en fait, qui sont 85% de la population, c'est la majorité de la population aujourd'hui. Et c'est eux aussi qui constituent la majorité de la génération, la nouvelle génération d'aujourd'hui.
Et chez tes clientes, tu as une vue de un pourcentage de leurs salariés qui utilisent, j'imagine que ça dépend des secteurs, ça dépend des boîtes, mais globalement, tu as des chiffres à nous donner là-dessus?
Bien sûr, en fait, nous aujourd'hui, on tourne autour de 30-35% minimum des salariés de l'entreprise qui deviennent des utilisateurs actifs chaque mois.
Okay.
C'est-à-dire qu'ils font une demande, au moins une demande d'un account par mois. On tourne aujourd'hui à 3 accounts en moyenne par mois par utilisateur. Oui, parce qu'en fait, là, en fait, ce qu'on se constitue, c'est pas la même expérience que la compte sur salaire, c'est une nouvelle expérience. Ça devient une poche de sécurité gratuite. Voilà, on sait qu'elle est là et donc on peut aller piocher dedans à n'importe quel moment où on a un imprévu, une urgence. On est déjà dans le rouge, comme d'ailleurs la moitié des Français aujourd'hui chaque mois. Et donc,
je crois que c'est le 10 sur les derniers,
malheureusement,
dernières études.
Tout à fait, et c'est 1 Français sur 2, c'est quand même colossal. Et donc, se dire, ok, là tout de suite, j'ai besoin de 50 euros pour payer mes courses chez Carrefour, bah, je prends 50 euros, je ne prends pas plus. En fait, sur l'application, je le reçois tout de suite et je l'utilise. Après-demain, j'ai besoin de 150 euros pour payer le plein d'essence de ma voiture, mon camion pour aller au travail, bah, je reprends. En fait, c'est ça, la flexibilité donne justement cette possibilité de gérer en fait, son budget mieux, de ne pas contracter encore plus de la dette, ce qui est le cas de la majorité des gens, avec encore des découvertes bancaires, des prêts à la conso, qui piétinent sur le peu de reste à vivre d'ailleurs du mois d'après. C'est ça la complexité.
Et c'est le cercle vicieux aussi.
Exactement. Et on enlève une part de cette anxiété financière très importante aujourd'hui, présente en fait partout en fait dans la population européenne et française, et qui d'ailleurs piétine directement sur leur productivité dans l'entreprise. Quand on sait aujourd'hui qu'un salarié va passer entre 6 à 7 heures par semaine à réfléchir sur son temps de travail, à réfléchir sur ses problèmes d'argent. Donc ça, c'est directement des heures de productivité énormes en moins pour l'entreprise. Et donc on le ce stress-là, avec une petite solution, bah, permet en fait, d'augmenter la productivité de la boîte.
Et est-ce que, on a parlé tout à l'heure, la situation économique, l'inflation font que tes interlocuteurs, que ce soit des dirigeants ou des RH, sont plus à l'écoute aujourd'hui que lorsque, par exemple, tu as lancé Rosalie?
Clairement, oui. Le mindset change, heureusement, et s'accélère de plus en plus. J'avoue que je pensais que ça serait beaucoup plus rapide que ça, à la sortie du Covid, parce que comme le Covid était un élément perturbateur énorme, planétaire, qui a redistribué les cartes un peu partout et qui a accéléré pas mal d'usages de manière vraiment impressionnante, je pensais du coup que cette conscience, en tout cas par rapport à la problématique, en tout cas, et la santé financière des gens serait clé, surtout avec la crise qui est apparue juste après le Covid. Mais je pense que malgré cette prise de conscience, je trouve que tu vois, on est encore coincé sur des process en fait administratifs et des formalités et une peur toujours encore du nouveau, une peur en fait de prise de risque, une peur d'innover
et de changer.
Ouais, parce que là, ce qu'on propose, c'est une expérience, c'est vrai, innovation de rupture, quoi. Donc oublier complètement l'expérience presque de paye classique et passer sur une expérience totalement nouvelle pour tout le monde. Et ça, du coup, c'est pas tout le monde en fait qui saute forcément là-dessus, alors qu'on pensait que ça serait très rapide. Mais maintenant, oui, heureusement que ça fait maintenant 3 ans qu'on essaie d'évangéliser le marché avec nos petits moyens, avec du lobbying, avec des médias, en en parlant énormément, en contactant presque tous les RH, les entreprises qui existent ici. Donc petit à petit, en fait, en nous écoutant, nous écoutant une fois, deux fois, trois fois, ça commence en fait à prendre, les médias aident, c'est pour ça en fait que je suis là aussi, parce que plus du coup les médias en parlent, plus du coup on prend conscience de ce qu'on appelle nous la santé financière, qui encore une fois une verticale méconnue, alors que elle doit être aussi importante que la verticale de la santé physique et la santé mentale. C'est vraiment le troisième pilier très important si on veut parler de bien-être au travail, si on veut parler de bien-être tout court en fait et de qualité de vie. Et là aujourd'hui, oui, ça s'accélère, les médias. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, il y a Emmanuel Macron a parlé justement de l'augmentation des demandes d'acompte, de l'inflation, des demandes en fait des gens de salaires anticipés. On fait aussi pas mal de baromètres chaque année avec Opinionway pour montrer qu'on est passé de 1/3 des Français qui souhaitaient avoir leur salaire en plusieurs fois dans le mois à plus de la moitié l'année dernière. Et là, on est en train de sortir justement le troisième chiffre pour montrer justement cette augmentation qui continue. Donc il y a un shift de mentalité. Pas que des entreprises, mais surtout de la population et des gens.
Et qui est demandeuse, en fait.
Tout à fait, qui est demandeuse de ça, parce que c'est une solution qu'ils découvrent et qui peut être la troisième alternative, beaucoup plus éthique, plus responsable et surtout gratuite et accessible que les seules deux alternatives qu'on a aujourd'hui bancaires.
Et je me mets à la place d'un entrepreneur qui nous écouterait et qui se dirait ok, mais donc c'est gratuit pour le salarié, et moi ça va me coûter combien?
Oui, en fait, l'entreprise, ça lui coûte un abonnement fixe par mois par salarié.
D'accord.
Donc, ce n'est pas du tout indexé ni à l'usage, ni au montant des acomptes. Non, c'est vraiment, on donne un accès libre au salarié. C'est à lui de choisir s'il utilise Rosalie 10 fois dans le mois ou tous les jours, s'il veut. D'autres vont utiliser peut-être 2 fois dans l'année, peut-être avant Noël pour acheter les cadeaux, avant de partir en vacances pour acheter les billets de train, si on veut. D'autres, en fait, vont plutôt utiliser d'autres fois les autres fonctionnalités, le chat avec un expert, une assistante sociale, simuler les aides pour découvrir une aide en plus, ou épargner. Donc vraiment, c'est très libre pour les salariés. Nous, ce qu'on vend, c'est tout un portail en fait de santé financière. L'entreprise donne accès à ça, et c'est aux salariés de choisir selon en fait là où il est aujourd'hui financièrement et selon ses besoins tous les jours, qui changent totalement et qui ne sont pas les mêmes entre un col bleu, un col blanc.
Non, puis dans la vie d'une personne, c'est pas linéaire non plus. Il peut se passer aussi des choses à certains moments, et il faut pouvoir ajuster. Ce business, il en est qu'à ses prémices en France. Tu disais, vous avez lancé il y a 3 ans. Ouais. Tu allais t'inspirer. À l'étranger, ou est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier qui a fait que Rosalie est née?
Rosalie est née parce que moi, depuis la vente de ma première start-up, je cherchais justement un nouveau projet qui allie un business model viable, ambitieux, scalable, comme d'ailleurs tout serial entrepreneur, et en même temps avec cet impact, en tout cas social, qui me fait triper, qui est très important pour moi, aussi important que le business model viable. mais qui soit intrinsèque au business model. Et ça, c'était très difficile en fait à trouver dans des projets, parce que soit on commence par un business model viable et on finit par ajouter une petite brique genre d'impact pour juste être dans le trend, ce qu'on n'aime pas du tout, et ce qui pour moi du greenwashing, ou on commence par l'impact et là pour le coup on finit malheureusement sans business model et donc ça meurt dans l'œuf avant d'impacter la vie de qui que ce soit. Donc il fallait vraiment trouver ces deux-là, et donc j'ai écumé énormément justement de decks à regarder, toutes sortes en fait de projets un peu partout dans le monde pendant à peu près 2 ans avec les investisseurs, etc. Et je suis tombée sur ce modèle qui s'appelle du Earned Wage Access, qui est né aux États-Unis justement, avec une entreprise qui s'appelle Daily Pay, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et qui maintenant la première, en fait le leader aux États-Unis très très rapidement, et c'est devenu tellement adopté, alors qu'aux États-Unis les gens sont payés chaque 15 jours, ouais. Et donc ils prennent quand même un équivalent de Rosalie entre le 1er et le 15 jours, et le 15 et le 30.
Certains sont à la semaine aussi, non?
En fait, c'est au UK, ouais. Mais en Europe, sur l'Europe continentale, on est à 99% ouais. Mensuel, hein, ouais. ça c'est clair, qu'en fait on se dit, ok, le pain est universel, accéder en fait au cash de manière instantanée et gratuite tout de suite pour répondre en fait à des imprévus, c'est pas américain, c'est partout dans le monde, et justement c'est là où je me suis penchée un peu sur les statistiques en Europe et j'étais choquée parce que pareil, moi aussi je pensais que on n'avait pas cette culture de dette aussi forte qu'aux États-Unis, qu'on est très loin de ça, et en fait les statistiques montraient tout l'inverse, c'est juste qu'en fait on ignorait en fait tout ça, parce que voir qu'on paye 7 milliards d'agio et 20 milliards de taux d'intérêt par an pour une petite population comme la France, c'est colossal. En fait c'est vraiment énorme, et donc c'est là où on se dit bon, ok, le pain en fait il est aussi là, et en plus on est sur 30 jours de paye, les gens tombent dans le rouge à partir du 10 du mois, c'est quand même une grande partie de la population qui est dans le découvert et qui s'en sort pas, donc ça devient quand même important de prendre en fait cette problématique là et de l'adresser de manière différente, en apportant une autre alternative à tout ça, en passant par l'employeur peut-être, parce que j'estime que c'est la responsabilité aussi des entreprises, c'est pas que l'État, d'aider en fait leurs collaborateurs. Et pour convaincre les entreprises, parce que c'est pas facile, il faut aussi leur prouver que c'est aussi gagnant pour eux que le salarié. Et donc il faut calculer presque un ROI pour le salarié autant que l'employeur. L'employeur.
Ouais. Et lui faire accepter d'arrêter le sacro-saint moment de la fiche de paie.
La paie est un sujet vraiment, vraiment compliqué. Je pense qu'on a tellement de choses à faire encore, à simplifier la fiche de paie, simplifier la loi de travail,
moderniser
les contrats, remoderniser tout ça.
Quand tu as en tête la personne qui fait l'épée, c'est pas forcément tourné tech. Dans l'imaginaire.
Je pensais qu'on ait au moins digitalisé cette partie, qu'on n'a plus ce sujet, mais je peux vous assurer que encore la majorité des entreprises sont encore en train de digitaliser. Donc on est dans cette petite révolution qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Les relevés d'heures qui sont encore en fait au papier et qui doivent attendre à la fin du mois pour être saisi pour faire le calcul. Ouais. C'est pour ça en fait qu'on n'a jamais en fait exactement le montant gagné au jour du jour. Ouais. Donc on est loin en fait d'ubériser ce système, tu vois, parce que Uber c'était les premiers en fait qui ont maintenant passé au salaire la rémunération presque instantanée. Parce qu'ils ont vu complètement un shift total de motivation de leurs chauffeurs. Quand un chauffeur voit en fait combien il a gagné après chaque course, avant chaque course, en fait ça change son rapport et ça rapporte en fait un rapprochement entre le temps travaillé et l'argent gagné. Et donc quand il voit qu'il a fait 10 courses dans la journée et qu'il a gagné 100 euros, il va se poser deux fois la question avant de partir. Il va se dire je vais faire une course de plus parce que je vais gagner 10 euros de plus avant de rentrer. Pareil pour s'absenter, je vais réfléchir un peu plus parce que ça m'enlève quand même 20 euros sur ça. C'est très différent. Ouais. Et c'est là où, en fait, on arrive à la question de l'absentéisme et le turnover, qui sont aujourd'hui des coûts énormissimes et un gros problème pour toutes les entreprises en Europe et en France. Et donc, je trouve que leur apporter déjà l'information de leurs gains instantanés ou en temps réel, ça change ce rapport-là.
Complètement. Pour développer, Rosalie, tu as levé des fonds à un moment peu propice au lever de fonds. Est-ce que tu veux nous partager cette expérience?
Oui, je sais pas, j'avais pas de chance, j'ai raté la fête. J'ai raté la fête de 2021. C'est un peu dommage parce qu'à ce moment-là, on était en train de commercialiser, on commençait, etc. Je sentais pas. On a raté ça. Et au moment du coup où on voulait lever, la crise était là et les VC arrêtaient de lever. Le robinet, on entendait que le robinet était, ça y est, coupé. Et du coup, il fallait tout changer, tout adapter. S'il fallait que j'aille voir les investisseurs et faire mon roadshow pendant cette période difficile, il fallait revoir tout le BP, revoir les KPIs, revoir ce qu'on demande, la valo, etc. C'était plus les mêmes notions, clairement, entre cette période folle et la période d'après. On a finalement réussi et on a levé 10 millions d'euros en septembre dernier.
Et je crois principalement avec des fonds américains.
Que des fonds américains, il y a un fonds allemand. L'élite, c'est les fonds américains. C'est des fonds américains tous spécialisés en fintech, parce que c'est quand même notre pierre angulaire. Ouais. Nous, en fait, on est une fintech et on veut justement apporter une sorte de... Pas une alternative à la banque, mais presque. Mm-hmm. Vraiment, un côté social que pourrait avoir en fait, la banque un jour et proposer toutes sortes de produits financiers comme la banque, mais de manière plus rapide, plus accessible pour les gens et surtout gratuite, idéalement, avec toujours un business model différent. Qui se base sur le B2B2C, c'est ça la grosse différence. Cette levée était un vrai parcours du combattant, mais on a trouvé des super partenaires, gros VC en fait qui connaissent très bien notre sujet, mm-hmm. Parce que justement ça a marché plus mature aux États-Unis, donc leur parler de Underage Access c'était
plus facile.
Plus facile, je sais pas, parce que c'est pas des gens qui connaissent l'Europe et donc miser en fait sur la petite start-up en fait en France, c'est même pas l'Europe pour eux, la France. c'était compliqué, ils voyaient en Rosalie le potentiel leader européen comme en fait le leader aujourd'hui aux États-Unis, DailyPay, qui est positionné sur le même sujet là-bas et qu'ils ont investi sur lui et qui l'ont accompagné en fait jusque-là.
Et les fonds français t'ont pas suivi?
Non, les fonds français, c'était compliqué, clairement. J'ai eu pas mal de claques par rapport à ça, parce que malgré le fait que je connaissais presque tout l'écosystème, je connaissais la majorité des VC, grâce justement à ma première expérience, je pensais que ça serait beaucoup plus facile, en fait, d'aller les voir. Mais en fait, le mindset est différent ici. Je pense que les VC français trouvaient le marché pas mature, immature totalement, et avoir le leap of faith sur une entrepreneuse justement qui se lance sur un marché qu'ils connaissent pas du tout sans connaissance en fait de time to market malgré tout ce qu'on a prouvé avec les premiers clients etc c'était très compliqué pour eux en fait je trouve donc leap of faith en France c'est compliqué
ouais.
En plus dans une période où justement où c'était partout très compliqué à lever c'était pas les premiers
plus
à sauter.
Et est-ce que le fait d'être aussi solo founder femme avait aussi un impact.
Bien sûr, ça c'est clairement un truc qui m'a toujours suivie, même avec ma première aventure, mais là, je ne vais pas me changer. je suis comme je suis et je pense que j'ai prouvé justement pouvoir faire des belles boîtes sans justement, je ne sais pas, commencer directement avec des associés et autres. Mais, ouais.
À ce sujet, j'ai une question pour toi.
Oui.
Vous avez un message.
Arbia, que ce soit sur Carnet de mode ou Rosalie, tu es la seule fondatrice. Est-ce une volonté de ta part ou est-ce que c'est compliqué de trouver le ou la bonne associée?
Je précise que c'est une question de notre partenaire Madinès et de son cofondateur Étienne Porté. Vas-y, je te laisse répondre.
Ok, je dirais que la première expérience, j'ai pas réfléchi, parce que j'étais forcément entrepreneur, je connaissais rien à l'entrepreneuriat. On commence avec nos guts, en fait, en quelque sorte. J'étais passionnée par le sujet, je me suis pas posé 1000 questions, je me suis lancée, en fait, là-dedans. Donc je me suis retrouvée, de toutes les façons, solo founder, sans y réfléchir. J'étais déjà dans le vif de l'action, je regardais pas derrière moi. La deuxième, clairement, oui, j'étais convaincue que j'aurais plus de chance, justement, que ça aille beaucoup plus facilement, plus rapidement, si j'étais... accompagnée au moins par une autre personne. Ça, c'est clair, parce que quand on passe 7 ans en première expérience tout seul, bah, on voit les galères et les difficultés à tout gérer, en fait, tout seul. Et donc, j'ai fait la démarche. Honnêtement, j'ai fait la démarche, j'ai rencontré énormément de monde. J'ai passé quand même 2 ans à chercher mon projet, à faire ça de manière proactive pendant mon break post-exit. Et franchement, je pense que j'ai fait des centaines de cafés avec des gens.
Mais t'as pas eu le café révélateur.
J'ai pas eu le café révélateur. Et aussi, je pense que, je sais pas en fait, est-ce que j'ai un biais ou pas, mais je trouve que, est-ce que le fait que je sois une femme, c'était plus difficile.
Ouais, ouais. De trouver un associé
tout
ou
à fait.
Une associée.
Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que j'ai rencontré d'ailleurs beaucoup d'associés, hein, hommes, parce que c'est difficile de, en plus de. Enfin, il y en a très peu déjà de femmes
qui
se retrouver pour s'associer. Mais du coup, dans les centaines de cafés que j'ai pris, c'était beaucoup plus d'hommes. Et je pense que les hommes, finir en fait un café, même si tout se passe bien, etc. Et je sais pas, je trouvais pas cette facilité comme quand je vois en fait deux mecs qui se parlent. Deux mecs qui se parlent, oh, c'est génial ce que tu fais, machin, et tu check, allez, on commence le truc ensemble. Bah, j'ai pas vu ça, en fait, je trouve, avec moi. Et c'est un truc, une remarque que j'ai partagée et j'ai entendue aussi de pas mal d'autres copines entrepreneurs qui avaient fait la même démarche et qui font la même démarche. Donc peut-être, en fait, c'est plus difficile de se projeter pour un mec, en fait, ou un homme, facilement, en fait, dans une association avec une femme.
Sur un projet qui était déjà avancé, contrairement où tu commences à deux sur un projet au même moment, où là, c'est quelqu'un qui rejoignait un peu le
navire. Et donc, ce que j'ai fait là, c'est que je me suis dit, OK, bah, je l'ai déjà fait, je peux toujours le faire et je ne vais pas, en fait, attendre cette personne juste parce que l'écosystème entier, il te dit, il faut avoir un associé. Donc, j'ai lancé mon projet et un an après, j'ai recruté, en fait, mon premier CTO, mon CTO, en fait, pour la boîte et direct, en fait, le courant est bien passé et je lui ai proposé en fait de s'associer avec moi et donc je lui ai donné des parts dans la boîte et il est devenu mon cofondateur en fait, un lead founder qui est arrivé même un an après, mais je me sens très épaulée.
Très épaulée, ouais,
tout à fait. Et qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre absolument de commencer avec une personne. Je trouve que être deux ou trois qui commencent en fait ensemble sur une idée, c'est une chance, c'est une opportunité, mais qui arrive en fait par hasard.
Les deux ou les trois vont peut-être pas forcément rester ensemble non plus, bah, parce qu'ils ont commencé au départ.
Tout à fait. Et c'est plus facile peut-être quand on la commence de l'école, parce qu'on commence entre potes ou des choses comme ça. Mais en fait, de manière pragmatique, après, on a un projet et on cherche quelqu'un à emborder direct avant de commencer. Il faut vraiment que les planètes s'alignent. Tu vois.
Le timing,
les gens, etc., etc. Tout à fait.
Je reviens du coup sur la levée donc, que tu as gérée seule. Et donc, je disais que dans un groupe d'entrepreneurs récemment, tu déclarais que si tu avais été un homme, tu aurais pu lever bien plus.
Oui, c'est une frustration parce qu'en fait, au moment où on a levé, j'avais plein de journalistes qui me demandaient oh, comment tu as réussi à lever 10 millions pendant la crise. Je répondais systématiquement, mais non, j'ai pas de doute sur la capacité de lever 10 millions. Mais par contre, le doute était le fait que si j'étais un homme, et ça malheureusement c'est l'écosystème actuel, c'est-à-dire malgré tous les efforts, malgré la bonne volonté hein, de tout le monde d'avancer, je pense qu'il y a encore des biais forts ancrés dans notre éducation et que je vois et que je remarque maintenant de plus en plus parce que maintenant quand on regarde plus les détails on les voit plus clairement en fait qu'avant.
Et ça tu l'as remarqué de l'autre côté de l'Atlantique parce que tes fonds sont principalement américain.
Oui, bien sûr.
Ouais aussi.
Ouais. Avec une culture différente, des billets différents, disons. Des billets différents.
Et t'étais préparée à ça, justement ?
Pas du tout. Franchement, aucune préparation, parce que j'ai levé sans leveur de fonds, donc je suis allée taper la porte direct des fonds, contacter, les voir. Donc j'apprenais sur le tas, en quelque sorte, et je m'adaptais, quoi. Je m'adaptais aux claques que je prends ici.
Qu'est-ce qui t'a étonnée, justement, dans des questions que t'as pu avoir là-bas, que t'avais par exemple jamais eu ici ?
Franchement, je me rappelle pas, mais tu vois, par exemple, là-bas, c'est marrant, parce que ici, c'était une grosse question toujours de ton associé, l'association, le fait que je sois solo founder, et même mon CTO, alors que je le mettais, tu vois, comme cofondateur, etc., ça, c'était pas assez en fait pour eux. Là où aux États-Unis, je sais pas, j'en ai vu 20 VC, il n'y a pas un qui m'a posé cette question.
D'accord.
Aucun. Donc, on se concentrait sur l'effet. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait ? Action. Donc, ouais, la différence, peut-être, ce que j'ai vu ici, c'était plus sur la théorie et
les grands principes de la réussite, normalement.
Les grands principes qu'ils connaissaient et qu'en fait, je checkais pas, en quelque sorte,
pour eux. Je cochais pas toutes les cases.
Je cochais pas. Là où, là-bas, en fait, c'était se concentrer sur, OK, qu'est-ce que t'as fait, en fait, depuis que t'as commencé ? C'est quoi les chiffres ? Quels sont les clients ? Le marché, le potentiel du marché, ta vision, etc. Et donc, c'était beaucoup plus concret et c'est ce qui m'a plu. Donc, on parlait le même langage, on était sur la même longueur d'onde. Tous les deux, ils comprenaient en fait ma vision, mon ambition. J'ai eu même remarque ici qui revenait énormément. Mais c'est pas trop ambitieux ça pour toi ? J'hallucinais. Là où là-bas, en fait, c'était le contraire.
On t'encourageait à être ambitieuse.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et même là, il me poussait énormément. Mais pourquoi en fait tu commencerais pas vite en fait à faire des acquisitions à l'international, commencer à faire du M&A, acheter des boîtes, voilà, enfin, s'étendre très 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 rapidement, etc. Là où, ici, on est encore sur, il faut
sécuriser son marché,
ouais,
français,
voilà, passer des années, etc. Ouais. C'est marrant, ouais. Il y a quand même des différences de, il y a pas tout bon et tout mauvais, hein, dans chacun.
Mais t'as ressenti le fait d'être une femme côté US des freins?
Moins, en tout cas. Peut-être qu'il y en a autant, oui. Hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans mon expérience à moi, à la dernière, j'ai senti que c'était moins que ce que je sentais ici, ouais.
Et tu viens de le dire tout de suite, tu disais sois ambitieuse, croissance externe, M&A, etc. C'est ce vers quoi tu te diriges avec Rosalie ?
Oui, bien sûr. Enfin, vraiment, l'ambition depuis le départ, je le martèle, devenir très rapidement le leader sur l'Europe. On était les premiers sur l'Europe et on veut garder justement cette avance au maximum et aller vraiment toucher le maximum de pays. Le problème, c'est que les autres pays sont aussi vierges que la France. Donc déjà, voir en fait le temps que ça nous a pris pour évangéliser ce marché. On ne veut pas, en fait, prendre autant pour chaque pays. Ce qui est bien, c'est que justement, on a une sorte de... Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais on s'attaquait, en fait, depuis le départ, au marché le plus compliqué de la Terre. Hein, la France, mais vraiment, c'est connu. Sur la paye, par exemple, c'est le plus compliqué dans le monde. Et sur la fintech, les réglementations, en fait, financières. Donc, mais après, si tu le craques, ce serait beaucoup plus facile ailleurs. Donc, c'est ce que je me dis tous les jours sur l'avenir, en me disant, voilà, si on craque la France, on craquerait le reste. Et après, en fait, nous, surtout, on contractualise avec des grands groupes ici. Et la majorité des CAC 40, en fait, sont leur siège ici. Des boîtes dans le retail, la restauration, service à la personne, la santé, etc. Et elles ont toutes énormément de filiales partout en Europe. Ce qui fait que, du coup, si on les chope ici, on signe avec eux ici, en fait, c'est de la scalabilité organique automatiquement dans les autres pays ont signé en fait leur filiale. Donc ça nous permet de tester les autres marchés sans forcément mettre des équipes locales tout de suite ou dès le début en fait sur ces pays-là. En tout cas, c'est ça la vision. Et donc là, on accompagne en fait nos clients sur des filiales en Italie, en Suisse, en Belgique, etc. pour voir et tester les marchés avant de s'étendre petit à petit. Ouais.
Plus généralement sur le territoire. J'ai une question un peu dans ce sens pour toi.
Vous avez un message.
Arbia, en fait, on se connaît bien parce que elle est repeat entrepreneur. On était finalement dans ma phase transitoire entre la fin d'Etsy et le début d'Encore Store. On s'est beaucoup parlé parce qu'elle était,
aussi. Carnet de mode.
Elle avait fini. Ouais. Et Arbia, elle était en train de chercher son nouveau projet. Et on se voyait régulièrement, on déjeunait ensemble pour essayer ensemble de craquer des idées. Et donc, on a appris à se connaître à ce moment-là. On a sympathisé. C'est quelqu'un que j'admire parce qu'elle a la niaque. Elle s'est relancée. Là, elle se bat sur Rosalie et je pense qu'elle a la bonne vision. Et je l'ai vue. En fait, je l'ai vue il n'y a pas longtemps et elle se bat et elle continue. Et moi, je la trouve géniale, Arbia. Donc, j'espère qu'elle va réussir. C'est en train de marcher, mais j'espère qu'elle va aller encore plus loin. Et je trouve que c'est une super sista.
Je te propose de lui poser une question.
Qu'est-ce que je pourrais lui dire, Arbia ? Je pourrais lui dire quand est-ce que tu relèves et quand est-ce que tu es leader en Europe ?
Donc c'était Nicolas Cohen. Donc
bien sûr, j'ai reconnu, c'est vrai qu'on a vécu une super époque transitoire à 10 ans, parce que je trouve que c'est la période en fait la plus fun quand on saute d'une idée à une autre, on cherche en fait la prochaine idée. Il y avait le côté excitation en fait de papillonner entre les idées. Après peut-être parfois on papillonnait un peu trop et on se disait mais putain, il faut se concentrer, il faut commencer en fait un truc parce qu'en fait en tant qu'entrepreneur, quand tu te lances, de toute façon tu regardes regardes pas derrière, t'es focus à 1000%.
Donc il a été dans les confidences du début de Rosalie.
Ah oui, oui, parce qu'on entend se parler ensemble, etc., sur les différents projets, est-ce que ce marché-là, tu trouves que c'est intéressant, etc. Parce que c'est très important de challenger, en fait, et parce qu'on voit pas forcément tous les inconvénients quand on est tellement porté, en fait, sur un
et
sujet.
Et c'est un des conseils que les entrepreneurs à ce micro donnent souvent, notamment aux gens qui nous écoutent, mais c'est de partager son idée et pas de la garder pour
soi. Bien sûr, l'idée ne vaut absolument rien, tout est dans l'exécution après, et plus en fait tu partages ton idée depuis le départ, plus du coup tu es challengé, tu découvres des choses, et même la personne en fait en face, au mieux elle va peut-être en fait te proposer un partenariat, te rejoindre, etc. Au pire, qu'est-ce qui va se passer, quoi, en fait, tu vas prendre cette idée, qu'est-ce qu'elle va en faire, parce qu'au final si ton exécution elle est meilleure, c'est toi qui gagne de toutes les façons. Donc et avec Nicolas du coup on a vécu cette après lui il a eu quand même un parcours impressionnant avec Encore Store. Je suis jalouse parfois d'ailleurs, et que j'admire énormément comme entrepreneur. Quand est-ce qu'on devient un leader Europe, j'espère vraiment le plus vite possible, hein, c'est tout ce que vraiment on essaye de faire le plus vite possible. On l'est déjà en France, mais c'est un marché encore, il y a un boulevard clairement à faire, à créer, il y a encore de l'évangélisation à faire. Moi, j'estime que ça serait mature au moment où tous les CAC 40 et toutes sortes d'entreprises connues ici auraient signé avec Rosalie et auraient justement donné Rosalie à tous leurs collaborateurs. C'est au moment où on aurait intégré des millions de gens que je dirais, ok, on a fait ce marché, on peut passer en fait au marché d'après. Et ça, de toute façon, c'est dans notre roadmap, clairement, et c'est notre ambition réelle et qu'on fait tout pour. Et sur quand est-ce qu'on relève, franchement, j'ai eu de la chance de réussir de lever pendant cette crise. Ça permet d'avoir une tranquillité d'esprit, j'avoue, qui est nécessaire pendant cette période quand même compliquée. Et de se dire, ok, on a de l'argent dans la banque, on est tranquille, on peut maintenant juste se focus sur le développement du produit, notre business, la vente aux boîtes, onboarder le maximum de salariés, améliorer énormément notre expérience client, avoir le NPS le meilleur qu'on pourrait avoir sur le marché. C'est là-dessus en fait qu'on se focus. Et on a de l'argent du coup jusqu'à 2026, donc honnêtement on est tranquille. Mais après, comme tout entrepreneur, quand il y a justement des opportunités et que timing devient intéressant, on va relever sans aucun problème. L'année prochaine, peut-être c'est un peu tôt, parce que j'estime que la crise elle est encore là malheureusement, et que les valos sont très bas, que la négociation avec les investisseurs elle n'est pas si rapide, etc. Mais peut-être en fait en 2025, et l'année prochaine on va plutôt se concentrer sur la partie dette, clairement, parce que nous justement on finance tous les acomptes pas sur notre balance sheet, grâce justement à ces différentes lignes de crédit qu'on fait avec les banques. Donc ça c'est déjà une sorte de roadshow à part, comme la levée de fonds, mais sur la partie facility qu'on va se concentrer à faire. Donc ça va être un peu mon cheval de bataille le début de l'année prochaine. Exact.
Tu disais, quand tu parlais de Nicolas, qu'il y avait toute cette période papillon d'idées qui fourmille dans tous les sens. Justement, post-carnet de mode, on va y revenir après. Tu as eu beaucoup de projets en tête avant de partir sur Rosalie.
Ah oui, mais bien sûr. En fait, en tant qu'entrepreneur, c'est horrible, mais tu as toujours en fait une nouvelle idée à la seconde. Et c'est ça qui est en fait important. C'est qu'est-ce qui fait que tu choisis celle-là sur laquelle tu peux te projeter, dire que tu vas y passer et consacrer peut-être le reste de ta vie, ou en tout cas les prochaines années non-stop en fait là-dessus, et pas le reste. Donc, c'est ça la difficulté. Mais oui, on en avait plein.
Et il y en a une que tu veux nous partager?
Oh, franchement, je me rappelle pas.
Les notes, parce que certains ils ont leur petit carnet.
Ah ouais, on notait en fait, on jetait très très vite dès qu'en fait on voyait que le marché soit manquait de maturité là-dessus, soit time to market était pas bon, soit être très concurrentiel. Enfin, il y a plein de critères. Mais ouais, enfin, je partais de tout en fait. J'explorais tout. J'étais énormément sur les AI, mais peut-être que j'ai raté un peu cette, cette partie-là, je sais pas, c'est vraiment si mon timing était bon là-dessus, parce que si je commençais en 2019 à travailler sur les AI et après voir un ChatGPT venir, j'aurais peut-être perdu deux ans avant, c'est un peu con. Par contre, si je devais maintenant lancer quelque chose, je pense qu'il y a tellement de use case de dingue avec cette révolution qu'est l'intelligence artificielle à faire, mais c'était un peu, j'avais des projets projets en fait là-dessus. J'avais des projets sur la blockchain, mais c'est vrai qu'heureusement, en voyant ce qui se passe,
c'était pas forcément la voie.
Et après, peut-être parce qu'on voyait toujours le terrain plus vert ailleurs, le fait qu'avec Carnet de Mode, j'étais en mode plutôt B2C.
Ouais.
Je trouvais ça très difficile et compliqué. Je voyais en tout cas tous les inconvénients du B2C. Je pensais que ça serait plus facile en B2B. Donc j'avais un peu plus de enclin en tout cas à voir un terrain que B2B. Je connais pas et à tester un truc nouveau. Ouais, c'est la nouveauté en tout cas et l'excitation de
un
la
nouveau
nouveauté.
Projet.
Ouais, un nouveau projet, un nouveau concept, un nouveau marché, un nouveau une nouvelle expertise à acquérir, etc. Donc Ça a été assez stimulant.
Tu viens de parler de Carnet de Mode, on fait un petit flashback, tu nous le pitches juste rapidement.
Oui, bien sûr, c'était une marketplace internationale pour les marques émergentes de mode. Donc, c'est une marketplace qui regroupait des milliers de créateurs en exclusivité sur la plateforme. Et donc, c'est une techno un peu comme Miracle, parce qu'on a commencé à lancer nos technos presque en même temps. On a levé les deux avec Elaya, le même investisseur. Ouais. Et en fait, ça permettait, cette techno, cette marketplace, à n'importe quelle marque ou créateur qui ne connaît rien à la techno, de créer son propre e-shop, son propre justement canal de distribution en ligne de manière automatique, instantanée, simple, sans avoir besoin de passer par des équipes, des agences en fait pour le faire et donc vendre directement ses collections en fait au grand public. Donc j'enlevais les intermédiaires qui maintenant devenus normal en fait la marketplace, tout le monde connaît à l'époque.
C'était très précurseur à l'époque.
Ah ouais, je courais derrière les créateurs et les marques pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires pour faire connaître leur collection et vendre directement en fait aux clients et que le canal en ligne c'est une vitrine beaucoup plus intéressante, c'est fou, mais voilà, pareil en fait, comme que Rosalie aujourd'hui, c'est aussi de l'évangélisation de marché.
Sur Rosalie et Carnet de Mode, j'ai une autre question surprise pour toi.
Allez.
Qui c'est ?
Vous avez un message.
Bonjour Arbia, c'est Maya de France Digital, j'espère que tu vas bien. Ma question aujourd'hui, c'est quel a été ton plus grand apprentissage chez Carnet de Mode qui t'a par la suite permis d'éviter certaines erreurs à la création de Rosalie.
Merci Maya pour cette question. Écoute, le plus grand apprentissage, c'était de bien s'entourer. Ça, c'est clair et c'est ce que je donnerais en fait tout le temps à n'importe quel entrepreneur.
Faut t'es vraiment... restée longtemps toute seule sur Carnet de Mode ?
Ouais. Enfin, je suis restée solo founder du début à la fin. Ouais. Et après,
j'ai
recruté une équipe, etc. Mais c'est pas la même chose. Mais là, j'ai compris absolument l'importance en fait de l'entourage depuis le début. Donc, j'ai consacré vraiment la période pré-projet qu'à ça. À rencontrer énormément de monde, à choisir les bons mentors, les bons investisseurs, les premiers clients qui vont tester la solution, les équipes. Mais alors, je lui donne une grande priorité par rapport à ma première expérience. Donc, j'ai très vite, en fait, là, recruté une DRH, alors qu'une petite boîte, normalement, on ne pense pas à ça, parce qu'en fait, je voulais absolument qu'on soit people first, puisqu'on est human first dans ce qu'on fait, clairement. Et donc, il fallait vraiment créer ces process depuis le départ, créer, en fait, une sorte de cohérence dans l'équipe, avoir vraiment cette passion qui nous guide tous, qui doit être le dénominateur commun entre nous tous, tout en s'entourant de profils très divers. La diversité est clairement angulaire dans mon équipe. Tu ne trouveras pas une personne qui est comme l'autre, que ce soit dans le parcours, que ce soit dans tout, en fait. C'est très, très, très différent. Et ça, c'est une richesse très, très importante. Donc oui, j'essaie, en fait, depuis le départ, de constituer cette équipe excellente de A-players. Je suis vraiment recrutée avec soin un par un et validée de ma part en passant vraiment le temps qu'il faut pour créer cette belle, justement, équipe qui va nous accompagner très longtemps, j'espère, et qui va toujours, en fait, faire des wonders, comme on dit. Donc, ouais, à s'entourer. Et de toutes les façons, pour moi, c'était la définition d'un entrepreneur. Sa force, c'est aller recruter, trouver les personnes plus fortes que lui sur tel ou tel domaine. Et donc, trouver la meilleure personne en marketing, la meilleure personne en sales, la meilleure personne en tech, etc. Et les mettre ensemble pour créer, justement, ce succès. Donc, pour moi, ouais, c'est l'apprentissage que du coup, je conduis aujourd'hui en y mettant vraiment du temps.
Et quel est selon toi le point commun entre ta première boîte et ta deuxième boîte ?
Point commun, c'est peut-être en fait, ouais, c'est la conquête d'un marché nouveau.
Ouais.
Beaucoup de gens diraient que c'est une connerie. Vraiment. C'est presque dans les books un peu de...
Mais toi, c'est peut-être ton esprit de réussite. De
ouais, je pense que c'est relié à moi, ouais. Hein, parce que franchement, j'ai essayé de m'éloigner en me disant, en fait, j'aurais peut-être plus de chances de gagner quand t'es le deuxième, après quelqu'un qui s'emmerde et qui se fatigue à évangéliser le marché, à ramer, etc. Et toi, tu viens prendre les low-hanging fruits, mais c'est pas du tout mon esprit. Du tout. Donc, je serais pas heureuse et c'est pas ce qui me stimule. Et donc, malgré tous les odds, en fait, derrière, justement, passer du temps à évangéliser avec ses petits moyens, tout seul, etc., en étant le premier, je le fais. Je le fais et je prouverai qu'on serait l'exception, justement, en prenant de l'avance, en créant des barrières à l'entrée forte, etc., en évangélisant ce marché.
Et maintenant, on va parler des toutes premières fois de toi en première. Ton premier doute en tant qu'entrepreneur ?
J'ai du doute tout le temps, c'est horrible. Le doute en fait sur le projet que je prends, parce que ça c'est déjà la première décision qu'on prend, comme j'ai dit tout à l'heure, sur laquelle on va consacrer comme des années de sa vie. C'est pas une décision facile.
Ton premier renoncement ?
Je pense que renoncement, c'est très difficile dans mon caractère. C'est rare en fait que je renonce à quelque chose. Même quand tout le monde en fait te dit... Putain, mais juste passe à autre chose. Je suis un peu chiante là-dessus. je pense que je suis très, 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 très têtue là-dessus. Par exemple, avec Rosalie, tu vois, le business model, on était les premiers, en fait, dans le monde. J'ai décidé qu'on vraiment fasse un business model différent de tout le monde, à faire payer plutôt les employeurs, les entreprises et pas les salariés. Parce que partout dans le monde, c'est les salariés qui payent parce que c'est plus facile. C'est eux qui perçoivent, en fait, le service. Donc, c'est plus facile de les faire payer. C'est beaucoup plus difficile d'expliquer, d'évangéliser l'entreprise pour pouvoir... en fait, assurer ce business model-là. Et j'avais énormément de gens qui me disaient « renonce, ce business model serait tellement plus facile pour toi, pour prouver au moins tes KPIs avant de passer à autre chose. » Mais en fait, renoncer à ça, c'est renoncer à mes propres principes. Quoi.
Et parce à tes valeurs et pourquoi tu
à mes valeurs, complètement. Parce que je faisais ce projet-là pour les gens, d'abord, avant les entreprises. Donc, on est très user-centric. On est une entreprise à mission, labellisée B Corp. Le drive premier, c'était l'impact social. C'est comment réellement changer la vie des gens en mieux, en positif. Et donc, leur faire payer... je trouvais ça un peu contraire.
Tu n'avais pas envie de travestir ton projet pour répondre à des normes.
Tout à fait. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, maintenant, si vous voyez, il y avait énormément d'articles qui sont sortis aux États-Unis, par Harvard, etc., qui prouvaient que le bon business model du futur dans notre secteur, c'était le B2B2C. Tout à fait.
Tu as bien fait de ne pas renoncer. Ton premier coup de culot.
Je pense que c'est
tous les
c'est
jours.
Tous les jours. C'est tous les jours parce qu'en fait, on est en mode vendeur H24 aux autres. On se vend auprès des gens pour aller fédérer, pour que en fait les recruter et qu'ils viennent nous rejoindre dans l'équipe. On se vend auprès justement des acheteurs ou les entreprises pour justement qu'ils achètent le service. Je suis en mode honnêtement mode évangélisation tout le temps quoi, non-stop en on. Donc c'est pas un moment particulier.
Et ton premier client, Rosalie?
Ouais, mon premier client, c'était, si je me trompe pas, c'était une petite boîte de blanchisserie, une blanchisserie en fait traditionnelle, de à peu près une cinquantaine de personnes. Donc pile dans ma cible, qui croyait en fait dans notre modèle et qui justement avait ce pain d'account sur salaire. Donc j'étais très contente en fait de tomber sur le client qui correspondait exactement à
tous
mes cases, absolument, sans en plus qu'il sorte de mon réseau. C'est ça qui est fou. En fait.
D'accord. Ouais. Tu es tombée sur lui.
Ouais, en fait, vraiment
en démarchant
normalement de manière sales simple, quoi. Alors que normalement tes premiers clients, c'est les gens que tu connais, etc., qui vont miser sur toi, etc. Mais moi, je viens d'un réseau très tech et donc je connais toutes les startups, les scale-up ici. Sauf que nous, on a un modèle qui vont plutôt des boîtes traditionnelles, des PME, ETI, etc. Donc là où il y a des cols bleus, donc ça ne correspondait pas à mon réseau. Donc il fallait vraiment que je crée en plus mon réseau de zéro, un autre réseau de zéro. Donc j'étais très contente. Ça prouvait en fait mon modèle.
Avant qu'on passe à la deuxième partie de cette émission, j'ai une dernière question. Dans toute ta vie d'entrepreneur, ton plus gros fail, c'est quoi ?
Moi, les plus gros fails, ça a été toujours, en fait, les recrutements. Parce qu'en fait, on rêve toujours, en fait, de recruter toujours à 100% les bonnes personnes. Mmh. Et un recrutement, malheureusement, malgré tout le temps qu'on lui donne, t'as toujours cette probabilité 50-50 que ça se passe pas bien. Et ça, c'est quand même un grand coût, en fait, pour la boîte. Je parle pas que de coût financier, c'est un coût...
d'énergie,
tout
de
à
temps.
Fait. Du coup, ouais, je pense que mes premiers fails, c'était peut-être des mauvais recrutements. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que j'insiste sur bien s'entourer.
Bien s'entourer.
Quoi. Ouais.
Allez, maintenant, on va parler plus de toi, d'Arbia.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
C'est le moment canapé.
Ok.
Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, certains sont nés dans des lignées d'entrepreneurs. Toi, c'était pas ton cas.
Non.
Comment tu t'es retrouvée là?
Je ne sais pas. Moi, je viens d'une famille très, très, très modeste en Tunisie. J'ai vécu en Tunisie presque toute ma vie, la moitié de ma vie maintenant. Donc, je suis arrivée en France après la prépa pour intégrer une école d'ingénieur. Mais par contre, ce parcours-là a été voulu depuis le départ. Donc, je le voulais. Je voulais un exit de tout, de mon entourage, ma famille, mon pays, etc. Parce que j'y voyais pas un avenir clairement facile.
Comment t'as été sensibilisée à cet exit possible, justement? C'est l'école qui t'a permis?
Non, je pense que c'est la pauvreté, c'est le c'est ça en fait qui te sensibilise. Et du coup, tu vas toujours chercher et te renseigner qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, enfin, en Tunisie ou au Maroc ou en Algérie, t'as pas mille trucs, hein, c'est connu. Soit tu t'es parmi les premiers dans tous les concours chaque année, premier au niveau national pour pouvoir justement intégrer ce parcours et choper une bourse spéciale pour justement te ramener en France, parce que sans argent, en fait, on ne peut rien faire. Et mes parents, d'ailleurs, enfin, ne pourraient rien faire pour moi. Donc, c'était presque le seul exit que je voyais, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai suivi, malgré moi, parce que je ne suis pas quelqu'un qui adore l'école, mais je me suis retrouvée en fait à le faire, donc à être la première toujours de l'école. Par obligation, en quelque sorte, parce que...
Te donner les moyens de cette
exit
dont tu parles.
Ouais, parce que je pense que, ouais, c'était... Encore une fois, je ne sais pas, est-ce que c'était la pauvreté, est-ce que c'était la volonté, tous les jours, en fait, de sortir ma famille du besoin, la volonté de casser des murs, la volonté de faire tellement plus, beaucoup plus, que de toutes les façons, tu fais des choses qui sortent de tes passions, c'est tout. Et donc, voilà, c'est un parcours classique, d'ingénieur là-bas pour venir en fait passer les concours des grandes écoles d'ingé ici et du coup être accompagnée avec une bourse justement pour payer mon voyage, mes études ici, ma vie ici, parce que sans ça je pouvais pas partir, mais c'est ce qui s'est passé, quoi. Je suis restée en France et la France m'a offert ma nationalité pour rester justement, et j'ai fait ma vie ici, quoi.
Et qu'est-ce que tu retiens de cette relation avec tes parents, ta famille, de ta vie en Tunisie? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu transmets à tes enfants aujourd'hui?
Ah, bien sûr, en fait. Enfin, je leur rappelle toujours qu'il n'y a rien d'acquis, qu'ils ont la chance, en fait, d'avoir une maman et un papa, justement, qui ont les moyens pour leur offrir la meilleure des éducations de manière plus facile que moi, de leur expliquer la valeur de l'argent, que rien n'est acquis dans la vie. Et justement, on essaie en tout cas de leur faire passer dès maintenant le virus de l'entrepreneuriat, parce qu'on est tous les deux entrepreneurs et on croit que c'est un peu le métier de rêve, en étant passionné bien sûr, pour changer le monde et pour faire des choses de dingue. Et donc, ouais, on les sensibilise à fond à ce qu'on fait, on les fait en fait participer au maximum à ce qu'on fait, on le fait de manière vraiment gamifiée.
J'imagine.
Vous inquiétez pas.
Vous les mettez pas devant le tableau Excel du business plan?
Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, ils ont une interdiction d'écran totale jusqu'à maintenant, etc. Non, en fait, on essaye de le faire de manière très pédagogique, simple, même pour demander un peu d'argent ou un cadeau. Il faut juste en fait qu'ils nous expliquent pourquoi. Ça, c'est la définition en fait d'un pitch de business plan demain. Mais déjà leur apprendre en fait à demander, à argumenter pourquoi et qu'est-ce que je vais en faire, etc. Ben, en fait, ça les prépare à être justement demain peut-être des bons entrepreneurs. Ouais.
Et des bons négociateurs.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des rencontres particulières qui ont marqué ta vie de femme et d'entrepreneur et qui ont eu des... qui ça a permis de faire des switches chez toi?
Ouais, mais c'était toujours des rencontres... c'est marrant, moi, c'est les rencontres négatives. Ouais. Qui me
te booste,
qui me booste, ouais, tout à fait.
Des gens qui n'ont pas cru en toi à certains
moments.
Ouais,
j'irai pas jusqu'à les remercier parce que j'entends ça, merci, parce que non. Ouais. Mais ouais, c'était toujours en fait ça, c'était toujours des grands coups, des remarques en fait, parce que la chose que je déteste le plus dans la vie, c'est l'injustice. Ouais. C'est ce que j'arrive pas en fait du tout à bypasser ou à, en tout cas à passer à côté. Je peux pas être indifférente à ça. Et c'est du coup ces petits cases en fait où je vois cette injustice incompréhensible qui juste me fait révolter. Et quand je me révolte, bah je switch.
Et t'agis du coup.
Ah, j'agis, ouais, tout à fait. Ouais.
Et c'est ça qui t'a donné aussi la niaque, qui te ta motivation, ouais, ouais, pour.
Moi, je pense que la niaque, elle est toujours en moi. Je ne sais pas si c'est une colère intérieure que je porte depuis toujours contre je ne sais pas qui, quoi. C'est pas contre la vie, parce que franchement, je suis de nature joyeuse. Mais ouais, je pense que c'est nécessaire. Un peu de niaque, un peu de révolte, en fait, contre un système, etc. C'est ça qui donne un plus pour justement agir de manière beaucoup plus forte.
T'es maman, tu fais beaucoup de choses, t'es à 3000% dans ta boîte, t'es aussi investie dans l'écosystème tech, je crois que t'as été représentante de la French Tech, tu donnes des conférences, etc. Comment tu trouves le temps de te ressourcer, de retrouver de l'énergie, de t'inspirer, de continuer à t'inspirer?
Bah, de tout ça, justement, en fait. Je ne fais pas ça juste de manière passive. Quand je fais tout ça, bah, on apprend aussi. On prend de ces rencontres, de ces événements, de ces conférences, de ces accompagnements. Quand j'accompagne, que je suis dans le board de start-up, ce n'est pas en fait moi qui donne. Je donne et je prends également. Donc oui, c'est une source d'inspiration continuelle. Et ce qui est beau, c'est que tout ça me passionne. De toute façon, donc, quand on fait quelque chose qui est passionnante toute la journée, ben, on lui trouve toujours le temps. Je ne sais pas comment, on lui trouve le temps. Je, bien sûr qu'on a toujours cette culpabilité en tant qu'entrepreneur, maman, est-ce que je donne assez de temps pour mes enfants, etc. Mais en fait, je suis pas énervée contre moi-même et je pense qu'on n'a pas la réponse en fait, à ça. Tant que mes enfants, je les vois épanouis, heureux, et que notre relation est top, malgré peut-être le manque de temps en fait, que je pourrais ressentir ou qu'ils pourraient ressentir, c'est qu'en fait tout va bien. Et je suis certaine qu'ils seraient plus épanouis avec une maman épanouie dans ce qu'elle fait. Et ça les inspirerait plus qu'en fait une maman qui va plutôt passer beaucoup plus de temps avec eux et qui...
qui n'est pas complètement peut-être épanouie dans ce rôle-là.
Peut-être, en tout cas c'est ce que je me dis pour me rassurer. J'espère que c'est vrai.
Je pense qu'ils te le rendent bien.
Bah, j'espère, c'est encore tôt, mais ouais, je compte sur eux.
Si tu avais 2 heures par jour en plus, chaque jour,
oh là là.
Tu ferais quoi? Tu travaillerais encore plus?
C'est vrai qu'en fait, je m'arrête jamais. Je suis une bosseuse de fou. Je travaille jour, nuit. Je m'arrête en fait juste parce que, enfin, je mets en fait les autres choses en fait dans ma journée, quoi. Mais si j'ai 2 heures de plus, c'est que j'ai pas le droit de bosser. Je dirais que j'irais au ciné, quoi. C'était mon échappatoire numéro 1, c'était ma passion numéro 1. Je faisais au moins un film d'auteur par jour, au moins, avant.
Ah oui.
Et là, c'est vrai que maman, entrepreneur, ça devenait beaucoup plus difficile, même si j'essaie maintenant de le faire de chez moi en téléchargeant des films, mais c'est compliqué de s'accorder en tout cas cette parenthèse-là, qui est d'ailleurs très importante parce qu'elle est ressourçante d'une autre manière. Et peut-être des gens qui adorent lire des livres. D'ailleurs, moi, je n'aime pas trop lire des livres. Ça fait très longtemps que j'ai dit ça. Et du coup, mon échappatoire, il est différent.
Elle était plutôt dans le cinéma.
Dans le cinéma, tout à fait. Parce que c'est une déconnexion totale. Je suis capable de me déconnecter totalement, de rentrer complètement en fait, dans le film et de voyager. En fait. Donc, ça fait un voyage de 2 heures qui, justement, te permet de revenir énergisé parce que tu as vraiment déconnecté, quoi.
Et c'est vrai que ces pauses dans la vie d'entrepreneur sont importantes pour retrouver de l'énergie, repartir. Même si on se dit mince, j'ai tout ça à faire, finalement c'est s'arrêter pour mieux repartir après.
Tout à fait.
Je te propose de prendre une nouvelle casquette et la suivante.
Parce que c'est notre point.
Arbia, si tu devenais présidente de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais ?
Ah là là, c'est compliqué parce que ouais, j'ai toujours rêvé d'être présidente de la République d'ailleurs, c'est marrant. Mais je ne suis pas allée jusqu'à ça serait quoi mon programme.
Pour les prochaines peut-être.
Ouais, ouais, mais en fait, c'est vrai que les deux sujets comme ça aujourd'hui qui toujours me tiennent à cœur et que clairement je ferai direct, c'est l'immigration et l'éducation.
Ouais.
Deux choses vraiment qui sont très importantes. L'immigration, parce que je crois absolument dans la diversité et cette richesse, en fait, de la diversité pour justement rendre un pays beaucoup mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Je ne comprends pas les débats d'aujourd'hui, je ne les comprendrai jamais. Et je trouve qu'on est toujours encore stuck dans un blocage parce que juste on ne réfléchit pas au-delà de nos frontières, de nos pays. Et ça, c'est très dommage. Voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc l'immigration, en fait, si je pouvais même être présidente du monde, j'enlèverais toutes les barrières et les frontières entre les pays, clairement. Et le deuxième, c'est l'éducation.
Ouais. Je te coupe juste, mais tu as œuvré aussi sur ce sujet-là avec Reda Berelli, non ? À un moment ?
Enfin, un peu, parce que c'était plutôt pour moi au moment de la révolution en Tunisie. Mmh. Tu vois, vraiment, on essayait d'œuvrer d'ici au maximum pour ça. Mais aujourd'hui, en voyant ce qui se passe, malheureusement, les raisons en tout cas de la révolution ne sont pas encore tenues après, même si c'est aussi l'enjeu politique qu'on ne peut pas trop contrôler derrière. Mais ouais, l'immigration, c'est un vrai sujet, et surtout que voilà, j'ai vécu presque comme une immigrée en fait, ici, même si j'ai eu en fait, ma naturalisation très vite, plus rapidement, parce qu'à cause justement de ce privilège, de ce programme d'études que j'ai fait. Mais ouais, c'est un sujet, je ne comprends pas malheureusement qu'on soit encore stack là-dessus. Ça me rappelle encore l'injustice de ce monde qui est insupportable. Et après, bah, l'éducation, très importante. En voyant mes enfants, et que tout commence en fait par là. Tout commence en fait depuis le début. Si on veut changer le monde, si on veut changer un pays, et si on veut vraiment changer les mesures et apporter une vie meilleure pour les gens, on commencerait depuis l'école, clairement. Et c'est vrai qu'en fait, l'école est encore sur un système, tu vois, de plusieurs siècles d'avant. Ça nécessite vraiment une grande modernisation, concentration plus sur la vie réelle plutôt que le théorique. On est encore sur l'éducation très théorique, alors qu'il faut montrer en fait aux enfants les choses. Il faut une immersion en fait dans la vie réelle. Il faut des expériences réelles, et il faut les immerger dans la vie de travail en fait le plus tôt possible. On y arrive trop tard, je trouve, par rapport à d'autres pays, et ça, c'est pas normal. Il faut le faire beaucoup plus vite si on veut justement ne pas avoir ces problèmes aujourd'hui dans le travail et dans ce qui se passe en fait plus tard dans la vie. Donc ouais, enfin, on va voir ce que fera Gabriel Attal. Alors, moi, j'ai beaucoup d'espoir en me disant bon, c'est un jeune, il a envie de faire des choses, mais il y a toujours,
c'est
à mon avis, le cadre,
système,
ouais, un système, voilà, dinosaure à faire poussiéreux, qui faut en fait savoir bouger. Je ne sais pas s'il aura le temps de faire quelque chose, mais il y a toujours l'espoir que quelqu'un qui vient, qui révolutionne tout ça, quoi.
Ouais. Tes enfants sont à l'école publique ou sont des amis justement dans des écoles un peu différentes, qui ont des approches différentes ?
Non, j'ai pris une école privée, ouais. Juste pour une seule raison, qui était commencer l'anglais depuis la maternelle. C'est-à-dire que j'ai fait le tour des écoles publiques et ils commencent ça tardivement, et pour moi, c'est pas normal. Le multilingue est très important, surtout à cet âge-là. Donc ils apprennent l'anglais, le français, l'arabe et le chinois.
Mais ça, tu leur parles arabe à la maison ?
J'ai essayé à fond, mais ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais ouais, je reprends des cours, surtout. Et aussi, deuxième problème, c'est le mercredi. Je comprenais pas les écoles où il faut en fait que mercredi, ils n'ont pas grand-chose. Il faut les emmener dans des activités en dehors, donc rester avec eux. Bah, en fait, tu ne peux pas travailler. Du coup, le mercredi, c'est compliqué. Donc, j'ai trouvé du coup une école qui les prend aussi le mercredi, et toutes les activités extrascolaires, que ce soit sportives ou autres, bon, on s'y inscrit et ça reste à l'intérieur de l'école. Donc ils ont une journée remplie d'apprentissage et donc une semaine normale comme moi pour aller aussi avec notre emploi du temps et qu'on soit pareil en fait. Eux, ils travaillent, moi je travaille et on se retrouve à la fin de la journée pour partager ce qu'on a fait dans la journée autour du dîner.
Mais c'est vrai que le rythme de l'école, moi, avant d'être maman, je ne comprenais pas les 6 semaines, toutes les 6 semaines qu'il y avait 15 jours de congé.
C'est un autre sujet en plus.
Bon, voilà. Je comprends un petit peu mieux maintenant, mais c'est de l'organisation.
Okay. Ouais, tout à fait.
Je vais te laisser le micro pour ta carte blanche.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Ma carte blanche. Y a un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est créer des ponts entre les startups et les grands groupes, et les startups et l'État. Je trouve vraiment un pont cassé, un pont inexistant. Il y a une complexité jamais vue, même dans d'autres pays, que je trouve très, 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 très ancrée, en fait, dans les process et les procédures ici en France. Et donc, c'est ce que j'essaie aussi, d'ailleurs, de défendre en m'engageant dans le board de la French Tech Grand Paris. Ouais. Et j'essaie vraiment, vraiment de faire ça dans mon quotidien, essayer de trouver comment changer ça. Donc, il y a quand même une belle initiative, là, avec Choose, la French Tech, mais qui, encore, en fait, a ses balbutiements. Ses débuts, il n'y a pas beaucoup en fait, d'adhérents dans les grands groupes. On veut les grands groupes, on veut la Poste, on veut Amazon, on veut le McDo, on veut le EDF, on veut SNCF, pas en fait des scale-up. On veut changer en fait le process archaïque aujourd'hui de gain, d'appel d'offres avec l'État, les grands groupes, les encourager à plus bosser avec les start-up, quitte en fait à réglementer un peu plus ça, en leur imposant un quota ou quelque chose comme ça pour qu'ils prennent des start-up et qu'ils accélèrent un peu la procédure, parce que c'est ça en fait qui va créer cette innovation dans le pays. Donc il y a énormément de start-up, énormément de solutions de dingue, mais on les voit pas dans la vie réelle et on les voit pas malheureusement en fait utilisées, parce que il y a pas ce pont et parce que les grands groupes encore privilégient de travailler avec des grands groupes et des grandes entreprises, et c'est pas comme ça qu'on avance.
BPI joue un peu ce rôle de mise en relation déjà, mais c'est vrai qu'il y a, s'il y a une mobilisation plus forte.
Mais il y a vraiment un travail beaucoup plus important que ça. Il faut aller vraiment dans les contrats, il faut aller dans des lois, clairement, à imposer soit des incentives, créer des incentives ou des punitions pour les boîtes qui le font pas, former les acheteurs des grands groupes, en fait, sur les process en fait, de travail qui doivent être différents avec des start-up que l'autre. C'est pas normal qu'un cycle de vente, aujourd'hui, d'un simple SaaS, d'une start-up innovante, malade, pour que ça arrive jusqu'aux mains de l'utilisateur avec un grand groupe, ça prenne un an. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Entre-temps, pendant cette année-là, ces startups et ces innovations peuvent mourir. Et ça n'a pas de sens.
Il y a le sujet aussi des délais de paiement.
Tout ça rentre dans le process de... Il faut vraiment une agilité beaucoup plus importante et qui soit adaptée en fait, à une startup si on veut passer de simplement la parole sur l'innovation et aller vers l'action.
Ouais.
Les résultats.
Merci. Cette année, justement, le thème de BIG, l'événement, grand événement européen de BPI, c'est la fierté. De quoi, toi, tu es fière, Arbia ?
Je suis fière de plein de choses. Fière, en fait, d'apporter quand même une solution sur le marché qui répond à un vrai besoin pour aider vraiment réellement les gens dans le contexte actuel. Fière de mes enfants qui sont géniaux, mais ça, toute maman, en fait, dirait la même chose. Et fière, là, dernièrement, de notre dépôt de proposition de loi sur laquelle on a œuvré là, pendant un an. Donc, on fait aussi du lobbying pour essayer justement de changer réellement les choses de manière plus ancrée, plus proactive. Et donc, en fait, on a essayé ou aidé en fait, à rédiger une loi pour justement flexibiliser la rémunération, rendre la compte en fait, sur salaire quelque chose d'obligatoire et surtout beaucoup plus flexible, plus accessible en fait, à tout le monde. On l'a déposé à l'Assemblée nationale et donc maintenant, on commence la partie difficile d'aller la défendre en fait, et d'espérer que plein de députés, en tout cas, nous suivent là-dessus. Surtout que c'est le sujet en fait du moment. Donc ça déjà c'était une grande phase qu'on est fier en fait de l'avoir atteint avec les équipes qu'on est en train de fêter.
En tout cas, quand on travaille le sujet des marques, et souvent j'explique qu'une marque, elle ne se résume pas juste à son produit et à ce qu'on vend, je pense que tu en es la démonstration sur ton engagement sur les sujets de Rosalie et sur tous les sujets que tu portes pour donner à ces Français et ces Européens bientôt du pouvoir d'achat avec la solution de Rosalie.
Merci.
Juste pour conclure cette émission, si toi tu avais dû choisir une sista, c'est-à-dire une femme entrepreneur que tu admires et sur laquelle mettre un coup de projecteur, tu aurais choisi qui et pourquoi ?
Il y a plein de filles génialissimes et je trouve qu'en fait, on ne met pas encore vachement la lumière sur elles, mais ça va venir. Mais celle, en tout cas, à laquelle je suis la plus proche et que j'admire, surtout avec tout ce qu'elle fait là dernièrement, c'est Isabelle Rabier, fondatrice de Joli Moi, en plus qui a fait un event de dingue dernièrement dans Grand Palais Éphémère, si vous avez suivi, avec 1500 filles de dingue, avec une ambiance folle. Parfois, je me dis, mais j'aurais bien aimé être là, passer mon week-end à sauter avec elle et danser parce que c'est un peu un sentiment de sororité, de dingue qu'elle a créé. Donc elle a créé une très belle communauté pour le social shopping, qui est quand même un nouveau sujet aussi innovant, qu'elle essaye aussi, elle, d'évangéliser et de créer. Et je reconnais en elle cette persévérance que j'ai aussi, cette niaque entrepreneuriale et cette joie de vivre assez contagieuse.
En tout cas, je crois que tu es au bas mot la cinquième sista à me citer.
Génial.
Isabelle. Donc je pense qu'on va l'inviter.
Ah bah c'est sûr, il faut.
Avant qu'un bro du Next 40 la cite, on va prendre le parti de l'inviter directement.
Génial.
Au micro de 40 News des Sista. Merci Arvia pour ton temps et pour cet échange et à bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.